Radio Okapi.
Pour vous informer en ce midi, c'est tout d'abord ces assurances du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima. En tout cas pour lui, les FRDC peaufinent toutes les stratégies de défense nécessaires pour bouter hors de Bunagana le groupe terroriste M23. Une réponse aux multiples inquiétudes quant à cette occupation de cette cité depuis maintenant 3 mois. À suivre aussi dans ce journal, cette désapprobation des quelques parents de Bukavu face à la vente de certaines écoles des fournitures et uniformes scolaires. Ainsi exhortait-il le ministre provincial de l'EPST à sanctionner les gestionnaires véreux de toutes ces écoles. Avec notre invité pasteur Mukubwa Kastaïm, point focal du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC, nous allons parler de la lutte de son association dans la recherche d'une vie paisible des peuples autochtones estimés à plus de 5000 vivants au Maniema. Mesdames et messieurs, veuillez bien garder la fréquence de Radio Okapi pour vous informer encore plus. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Nord Kivu pour commencer, 3 mois déjà depuis l'occupation de la cité de Bunagana ainsi qu'une grande partie du groupement de Jomba à la frontière avec l'Ouganda par la rébellion du M23. Des voix s'élèvent de plus en plus pour fustiger la passivité des FRDC et du gouvernement à récupérer cette entité stratégique sans oublier les conséquences socio-humanitaires provoquées par cette occupation. En réaction, le gouverneur de province a réaffirmé la détermination de l'armée à récupérer cette partie du territoire national. Dans un briefing à Goma le week-end dernier, le lieutenant général Constant Dima a rassuré la population que les FRDC travaillent pour récupérer Bunagana. Les détails dans ce reportage de Goma avec Jean-Claude Lokidile.
La cité de Bunagana a totalisé mardi dernier 3 mois depuis qu'elle est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés. Ces derniers contrôlent également plusieurs localités des groupements Jomba, Rusigari et Bweza en territoire de Rutshuru. Ces mouvements rebelles s'organisent davantage dans cette partie du nord au Kivu. Par exemple, il a installé une administration parallèle, fait payer des taxes mensuelles aux habitants qui sont contraints de regagner leur milieu, sans oublier toutes les actions dont sont accusés ces rebelles. Mécontents de cette situation, plusieurs acteurs sociopolitiques locaux exercent une pression sur les autorités militaires afin de récupérer cette cité d'importance économique capitale. Devant la presse internationale, samedi dernier, à Goma, le lieutenant général Constant Dima a souligné « Nous sommes en opération, nous devons coûte que coûte récupérer la situation à Bunagana ». Fin de citation. Constant Dima n'a pas manqué de déplorer la situation humanitaire des déplacés internes ainsi que les réfugiés refoulés depuis une semaine par l'Ouganda et qui vivent dans les mauvaises conditions à Rutshuru.
À Ituri, plus de 200 enfants, soldats sont sortis des différents groupes armés depuis le début de cette année grâce au soutien de la MONUSCO. Cette information a été rendue publique mardi à Bunia par la section protection de l'enfant de la mission onusienne. C'était au cours d'un atelier de validation du plan opérationnel de démobilisation, désarmement et réinsertion pour enfants. Les ONG de défense et de protection des droits des enfants qui participent à cet atelier demandent au gouvernement d'instruire les responsables des groupes armés favorables au processus de paix de libérer tous les autres enfants qu'ils détiennent pour leur réinsertion dans la vie civile. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
7 ONG de protection de l'enfant participent à cet atelier pour réfléchir sur les voies et moyens de sortie des enfants qui sont encore dans les groupes armés. Et c'est à travers la validation du plan de DDR enfants que cette démarche pourrait aboutir, indiquent les organisateurs. Ce plan prévoit entre autres la mise en place des clubs d'écoute pour enfants ou encore des familles transitoires qui peuvent servir des lieux d'accueil pour ces enfants. Le responsable de la section protection de l'enfant à la MONUSCO à Bunia indique qu'en l'espace d'une année, plus de 200 enfants sont déjà sortis des groupes armés grâce à l'appui de la mission onusienne. Jean Mouzama invite les leaders des groupes armés CODECO, FPIC, FRPI qui sont déjà engagés dans le processus de paix à libérer les restes des enfants qu'ils détiennent afin qu'ils réintègrent la vie civile.
Les enfants ne donnent ni de titres ni de grades aux dirigeants des groupes armés. Les enfants doivent être déjà libérés. C'est une preuve de bonne foi. Aux autorités, dans les négociations qu'elles ont avec les membres de groupes armés de ne pas oublier l'aspect des enfants.
Pour la conseillère du gouverneur des provinces en charge des questions genre, le gouvernement attend la matérialisation de ces plans afin de permettre à tous ces enfants de reprendre une vie normale. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette inquiétude dans le secteur de l'enseignement. Certains parents de Bukavu désapprouvent la vente des fournitures et uniformes scolaires par les écoles elles-mêmes. Ces parents demandent au ministre provincial de l'EPST de faire respecter sa propre mesure, interdisant aux gestionnaires d'écoles de transformer les milieux éducatifs en marché de vente des objets scolaires, souvent au prix très élevé. Jean Kassami nous en fait le point.
Un journal de classe qui coûte 1500 francs congolais sur le marché se négocie autour de 4000 à 5000 francs congolais dans les écoles. Les tissus pour une uniforme vendu à 5 dollars par les commerçants revient entre 20 et 25 dollars lorsqu'il est payé auprès d'une école. Germé Sewanda, parent, sollicite l'implication de l'autorité de tutelle pour faire respecter sa mesure.
Nous avons acheté le journal de classe où il y a des logos de l'institution, même les uniformes. Ici, par exemple, on achète le journal de classe à 2,5, ce qui fait 5 000 francs. Mais je pense qu'ailleurs, ça doit être moins cher par rapport à ça.
La ministre provinciale de l'enseignement primaire et secondaire au Sud Kivu, Geneviève Mizumbi, réitère sa détermination à faire appliquer cette mesure sans faille.
Que les parents dénoncent et avec des cas précis, ne peuvent pas se limiter seulement à se lamenter. On ne peut pas généraliser. S'il y a des cas isolés, nous allons prendre des sanctions aux douanes.
Jacques Chirimwami, délégué syndical des enseignants au Sud Kivu, pense que la décision ministérielle a été annoncée avec retard et que par conséquent, elle a moins de chances de réussir. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Ici, des sanctions sont tombées. Les chefs d'établissement scolaire de Lubumbashi qui ne respectent pas le principe de la gratuité de l'enseignement sont dans les collimateurs des autorités éducationnelles de la province. Certains ont déjà été frappés. Exemple des responsables de deux grandes écoles conventionnées catholiques qui ont été trouvés en train de vendre obligatoirement certains effets scolaires. Les détails avec l'inspecteur provincial principal Grégoire Mouka, joint par Jean Gandou.
Il y a déjà des mesures de suspension qui frappent bon nombre de chefs d'établissement. Ces mesures-là ont été peut-être prises par les chefs de sous-division, mais nous, nous allons entériner ces mesures-là parce que ce sont des mesures salutaires pour les parents. Et nous avons constaté qu'il y a des écoles qui demandent 40 dollars pour l'acquisition des bancs. Il y a des écoles qui exigent la tenue des gymnastiques. J'étais au lycée Twendele. Nous avons appris que l'école secondaire fait payer 35 000 francs aux élèves pour l'acquisition de la tenue des gymnastiques. J'ai intimé l'ordre à la sœur préfet ou à son intérimaire de procéder au remboursement des 35 000 francs. Et moi-même, je m'y rendrai régulièrement pour voir si les 35 000 francs vont être effectivement remboursés. Il y en a en ville, dans certains magasins, à 10 000, 15 000 francs. Pourquoi les enfants doivent nécessairement acheter là où la tenue coûte 35 000 francs? Et ils ont perçu de l'argent, ils n'avaient pas encore distribué la tenue en question.
Deuxième journée ce mercredi de la réunion du comité provincial élargi de l'éducation en Nord-Oubangui. Au cœur de ces assises, les actes de vandalisme menés par des candidats malheureux de cet établissement d'enseignement secondaire à la récente édition de l'examen d'État. Ces derniers, au lendemain de la publication de leurs résultats mal formés, sont allés manifester leur colère contre les autorités scolaires. Ces jeunes manifestants ont été arrêtés. Le point avec Paul-Richard Malengela.
La ville de Badoli, Tejoufle du Nord-Oubangui, a été ajoutée le week-end dernier en cause de finalistes malheureux à l'examen d'État ont manifesté leur colère pendant des jours. Armés de pierres et de goudins, ils ont attaqué l'inspection principale provinciale de l'EPST Nord-Oubangui, y compris leur direction scolaire. Ce désordre a paralysé la ville. Les autorités ont dépêché la police qui les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. 7 manifestants, dont 3 filles, ont été interpellés. Leurs camarades sont alors allés saccager la résidence du commandant ayant conduit cette opération. C'est pourquoi le comité provincial élargi de l'EPST s'est réuni en urgence hier mardi et ce mercredi sous la conduite du vice-gouverneur de province Oscar Oshobale. Des décisions sont attendues à la fin de la journée. En réaction, le président du conseil provincial de la jeunesse a condamné cette barbarie des jeunes. Toutefois, Patrick Komongo a sollicité un assouplissement des sanctions à l'encontre des jeunes arrêtés qui auraient été manipulés selon lui. Pour sa part, le président du cadre de concertation de la société civile, Taylor Taïma, condamnant et qualifiant ces actes d'irresponsables, exige plutôt une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont l'habitude de rançonner les finalistes en leur proposant les phénomènes illicites appelés laboratoires. Bandaka, Paul Richard Malingue, la radio Okapi.
Encore une nouvelle en rapport avec l'éducation. Au Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 se dit déterminé à encourager les jeunes filles à aller et à demeurer à l'école. Yoy Bokete Jean-Pierre est parti du constat selon lequel plusieurs filles qui terminent le cycle primaire n'évoluent pas vers les études secondaires. C'est dans ce sens qu'il visite avec son équipe les écoles pour sensibiliser les filles à demeurer à l'école en payant les frais scolaires de certaines filles. Florence Kizalunga, reportage.
Après la sous-division des Kalima, Yoy Bokete était mardi au complexe scolaire La Grâce. Après la sensibilisation, le provède a payé les frais de scolarisation d'une fille de la 5e année pédagogie, Issa Viviano.
Moi, j'aime vraiment les études, mais mes parents n'ont pas beaucoup de moyens pour me faire scolariser. J'ai remercié cet acte du provède et je demande encore une aide pour que je termine mes études.
Très émise, la maman de cette fille a manqué de mots pour dire merci au provède. Zinga Kapuli.
Ah, c'est une joie pour moi. Je n'ai pas de travail. Mes enfants étudient difficilement. Je remercie les provèdes pour avoir pris en charge ma fille. Vraiment merci.
Selon le provède, son souci est de relever les taux de la scolarisation de la jeune fille du Maniema.
Nous avions voulu maintenant encourager à travers ce geste la jeune fille à rester toujours au niveau de l'école et à prendre ses responsabilités en main. Et cette action doit aussi susciter les autres filles d'aller toujours à l'école. Nous avions voulu en relever un peu les taux de scolarisation de la jeune fille au niveau du Maniema.
Le préfet du complexe scolaire La Grâce plaide pour les cas des autres filles qui étudient difficilement par manque de moyens. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous nous rendons à présent au Kasaï oriental où les problèmes d'eau, d'électricité, le désenclavement de la province, l'emploi des jeunes ainsi que la situation de la relance de la société minière de Bakwangamiba ont été mardi au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, la société civile, la Fédération des entreprises du Congo FEC et les jeunes. Plusieurs couches de la population reçues en audience affirment que le Premier ministre a été réceptif. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordé plusieurs audiences à quelques couches de la population du Kasaï oriental, parmi lesquelles la société civile et la Fédération des entreprises du Congo. Rachel Kapinga, coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile, revient sur le point abordé avec le Premier ministre.
Nous avons parlé de prioriser l'agriculture locale. Nous avons dénoncé les travaux des infrastructures qui marchent à pas de tortue. Nous avons parlé des ports de Nomba pour désenclaver la province, la situation de la jeunesse qui n'a pas d'emploi, les appuyer en entrepreneuriat. La situation de l'eau, il n'y a pas du courant sur la ville. Renforcer Tchala, ça sera mieux. Il nous a promis qu'il a pris ça en compte et dès ce soir même, va y travailler avec son gouvernement.
Le conseil provincial de Diamantère et les membres de la FEC ont abordé les points sur l'énergie et l'économie. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Nous avons demandé que le financement nécessaire soit disponible pour finaliser le projet Katende, mais aussi notre rivière pour la construction de mini-barrages. Nous voulons le paiement de la dette intérieure à travers la FEC, mais également nous avons demandé à ce que les entreprises locales bénéficient des travaux qui se font dans le pays.
Signalons qu'avant son retour à Kinshasa, le Premier ministre a visité différents chantiers ouverts au Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province Tanganyika, 70 agents nouvelle unité non pris en charge prestant au centre d'impôt synthétique du Kalemie demandent leur mécanisation. Dans un mémorandum adressé au directeur général des impôts à Kinshasa, ces agents rappellent qu'ils ont déjà totalisé entre 5 et 17 ans de service sans interruption. Ainsi, ils demandent qu'ils soient reconnus officiellement et intégrés parmi les agents de la direction générale des impôts. On écoute cet extrait de leur mémorandum choisi par Paul Mounang.
Nous avons été émotionnés à deux reprises de constater que sur les notes de service numéro 30 du 29 juillet 2022, reprenant 5 personnes prises en charge et affectées au CIS Kalemie, et du numéro 01 du 30 août 2022, reprenant 95 personnes prises en charge et affectées à la direction provinciale des impôts du Katanga, aucune de nous n'y figure. Monsieur le directeur général, permettez-nous de témoigner que nous pouvons nous vanter. Nous sommes les agents catalyseurs des recettes collectées au CIS Kalemie. La maximisation des recettes réalisées par ces derniers émane de nous, la raison pour laquelle nous méritons une prise en charge. Nous voudrions certainement rester au service de la DGI, travailler loyalement avec toute performance possible afin d'atteindre et surpasser toujours les assignations. Malheureusement, longtemps servir l'État, nous apprenons souvent qu'il y a affluence des prises en charge alors que cette situation demeure sans suite.
Un mot de culture avant de passer à la page internationale. Kinshasa accueille du 16 au 18 décembre, au 18 septembre plutôt, le premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine. L'annonce de cet événement a été faite hier, mardi 13 septembre, au cours d'une conférence de presse animée par l'organisatrice. Placé sous le patronage de la première dame de la RDC, ce salon va se dérouler au Pullman Hotel. Au menu, exposition, conférence, atelier et concours. Il y aura également des espaces aménagés pour les enfants. Les organisateurs s'attellent à mettre en valeur les différentes initiatives et activités liées au bien-être. Un accent particulier sera mis sur les ongles, le make-up, les cheveux, la peau et les accessoires. L'initiatrice de ce salon, Malou Christine Makwenge, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Je pense que toutes les femmes ont toujours quelqu'un qui lui demande où est-ce que tu as fait tes cheveux, où est-ce que tu as fait tes ongles, tu te maquilles où, tu utilises quelle poudre et tout. Et je me suis dit que ça serait bien de le mettre en fait sur une plateforme. Et à la base, je voulais créer une application pour créer des événements à partir de son téléphone. Ça veut dire que tout le monde pourrait créer son événement en louant, en prenant des prêteurs, des locations de chaises, etc. Et en fait, les deux idées se sont rejointes parce que ce sont mes deux passions du coup. J'ai pris l'idée de l'application du côté événementiel et le besoin que j'ai constaté et du coup, j'ai créé ACBA. Ça faisait 3 ans que je le développais parce que je l'ai partagé à beaucoup de personnes et j'ai eu beaucoup de retours et je me suis vraiment adaptée à toutes les remarques qu'on m'a faites pour arriver là où je suis. Et c'est une application qui va vraiment se développer dans le temps. L'ambition est même qu'on arrive à l'organiser dans d'autres pays africains pour montrer aussi que la RDC a un événement qui est très fort, qui rassemble du Made in DRC, des femmes congolaises et pour une fois, on aimerait vraiment que ça s'exporte dans plusieurs pays.
Actualité internationale.
Le Niger et la Banque mondiale ont lancé mardi à Niamey un important programme d'électrification visant à porter le taux national d'accès à l'électricité à 30% en 2026 et à 80% d'ici 2035 contre 17,5% aujourd'hui. D'un coût de 317,5 millions de dollars, ce projet dénommé ASKE, lumière en langue locale Haoussa, ambitionne d'accélérer l'accès à l'électricité pour les ménages urbains et ruraux, les établissements de santé, d'éducation, les entreprises, a souligné le ministre Ibrahim Yakoubou lors de la cérémonie de lancement. Le projet ASKE vise également à assurer l'expansion de l'énergie solaire photovoltaïque dans cet immense état sahélien des plus de 22 millions d'habitants. Et puis, cette inquiétude du secrétaire général de l'ONU. Il est scandaleux que les pays développés n'aient pas pris l'adaptation au sérieux et se soient dérobés à leur engagement d'aider le monde en développement. La décision de Glasgow exhorte les pays développés à fournir collectivement 40 milliards de dollars par an des nouveaux financements pour l'adaptation. Et ces fonds doivent être versés intégralement comme point de départ réclamé Antonio Guterres. Alors que la sécheresse menace des milliers de personnes, notamment en Afrique, les perspectives inquiètent. Il y a 93% de chances qu'une année sur les 5 prochaines connaisse une chaleur record, avertie pour sa part l'Organisation météorologique mondiale.
L'invité.
Notre invité, pasteur Mukubwa Kastaïm, point focal du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC. Il nous parle de la lutte de son association dans la recherche d'une vie paisible des peuples autochtones estimés à plus de 5000 vivants au Maniema. Pasteur Mukubwa Kastaïm s'entretient avec Florence Kizalunga.
Pasteur Mukubwa Kastaïm et Poto, bonjour.
Bonjour, madame.
Encore une fois, vous venez de réunir tout autour d'une table les autorités politico-administratives, le peuple autochtone et la société civile pour parler de la situation des peuples autochtones. Quel est le souci de Repalef en organisant cette rencontre?
Le souci de Repalef en organisant cette conférence débat, c'est porter à la place publique les desiderata des peuples autochtones et surtout en présence des peuples autochtones. Car dit-on, comme disait Gandhi, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. C'est pourquoi nous les avons invités cette fois-là. Ils étaient dans la salle, ils ont parlé de vive voix devant les autorités pour que les autorités puissent comprendre. Et nous, nous avons relayé leur message afin qu'il y ait un changement notable réellement dans les chefs des peuples autochtones.
Votre rencontre a tourné autour du rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission des savoirs traditionnels. Quels sont ces savoirs?
Dans le foyer ou dans la communauté des peuples autochtones, la femme a une prédominance. C'est pourquoi elle a la charge de transférer, de préserver les savoirs traditionnels auprès des générations futures. Les savoirs traditionnels des peuples autochtones sont, par exemple, la pharmacopée, la tradition par rapport à la chasse et à la pêche, parce que les peuples autochtones, eux, sont des chasseurs-cueilleurs. Ils ne vivent que de la chasse, de la cueillette et des ramassages, tels que nous l'avons étudié depuis très longtemps. Et c'est pourquoi ils ont présenté, même devant la communauté, leurs savoirs endogènes. Ils ont démontré comment ils travaillent avec les plantes pour guérir les malades et les faiblesses de tous ordres dans l'organisme des humains.
Chaque année, vous avez toujours plaidé en faveur des peuples autochtones du Maniement. Quelle est leur situation actuelle?
Madame la journaliste, il n'y a pas encore de véritable changement. Nous plaidons chaque année, mais nous n'avons pas encore eu de véritables subsides pour travailler en profondeur. Avec la GIZ qui est venue notre partenaire, elle nous a aidés d'une manière ou d'une autre, mais nous avons mis l'accent devant l'autorité provinciale, devant l'autorité de l'Assemblée provinciale, pour qu'ils travaillent de concert avec nous, de commun accord pour que cette lutte ne soit pas seulement la lutte du REPALEF, de la PEDEMA ou la DGPA, mais que ce soit la lutte concertée avec non seulement les autorités provinciales, mais aussi avec les autorités législatives. C'est pourquoi la loi est là, la proposition dédiée est là, pour que nous puissions voir dans la mesure du possible comment relever la face des peuples autochtones dans la province du Maniema.
En quoi est-ce que vous pensez que l'EDI viendra résoudre tant soit peu le problème des peuples autochtones dans la province?
L'EDI viendra résoudre le problème parce que il y a les problèmes sectoriels. Il y a dans l'EDI ceux-là qui vont briser la loi en enfreignant le droit des peuples autochtones. Il y a des punitions là-dedans. Les infractions qui sont commises par les communautés autres que les peuples autochtones seront directement en difficulté avec la loi. Et c'est pourquoi je crois que quand la loi va s'appliquer, je crois qu'on va redresser réellement la situation des peuples autochtones. Et encore, nous allons plaider davantage pour qu'il y ait des grands projets qui vont aider les peuples autochtones à émerger, les grands projets avec d'autres partenaires autres que la GIZ. Mais nous demandons aussi aux autres partenaires de tourner les regards vers les communautés autochtones pour que les changements puissent se manifester directement dans la vie des peuples autochtones.
Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture. Je pense que c'est une bonne chose.
Ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est une meilleure chose. C'est pourquoi nous allons demander à ceux-là qui ont la possibilité d'amener les instruments de l'agriculture pour qu'ils les aident en fait de se relancer dans l'agriculture, une agriculture de consommation seulement. Je sais, bien sûr, parce qu'ils vivent tous dans des milliers déshérités et même loin des routes principales et secondaires. Ils sont chasseurs-cueilleurs. Maintenant, ils veulent se lancer dans l'agriculture. Or, en se lançant dans l'agriculture, la sédentarisation véritable va se manifester.
Est-ce que ça, c'est la responsabilité de votre association?
Nous, REPALEF, nous sommes une organisation de la société civile. Nous venons seulement à rescousse, mais celui qui a réellement la responsabilité directe, ce sont toutes les autorités depuis le niveau national jusqu'au niveau le plus bas. C'est pourquoi nous avons invité cette fois là aussi les chefs coutumiers, les chefs des secteurs et des chefferies des trois territoires où vivent les peuples autochtones pour qu'ils entendent la vérité que nous devrions exposer devant eux et même la maltraitance qui vient parfois à travers eux. Ils puissent comprendre que ce qu'ils font contre les peuples autochtones, ce sont les choses qui sont inacceptables.
Pasteur Mukubwa Kastaïma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Madame la journaliste.